Je vous invite ce matin à prendre un petit déjeuner. Je ne sais pas si vous avez pris un petit déjeuner. Qu'est-ce que vous préférez ? Petit déjeuner continental ? Breakfast anglais ? Alors je vous propose un breakfast oriental. Ah, c'est pas mauvais non plus. Vous connaissez ce texte où Jésus va lui-même préparer un petit déjeuner pour ses disciples. Ça vous dit quelque chose? Oui, ils avaient du poisson au menu, oui, effectivement. Avec un barbecue. Donc c'est dans Jean 21. Et alors cette scène, c'est celle d'un petit déjeuner au bord d'une plage et la métaphore que j'ai choisie pour parler de ce qui s'est passé chez l'apôtre Pierre ce jour-là, c'est une métaphore médicale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette méditation ce matin l'opération de Pierre. Pierre en salle d'op. Vous savez ce que c'est pour certains d'entre vous, hein ? Pierre au bloc opératoire. Et là, en lisant cette scène, j'ai vraiment le sentiment que Pierre s'est trouvé dans, là, sur une table d'opération et que Jésus a ôté le problème, la racine du mal, le problème qui était là dans, en Pierre, dans son cœur. J'allais dire le cœur de Pierre, mais bon, ça pourrait être mal pris. On va lire le texte. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour rafraîchir la mémoire des autres. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et il tira le filet à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à lui, à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Chapitre 21, c'est ce qu'on appelle un appendice. Alors, puisqu'on est dans la métaphore médicale, vous savez ce que c'est en anatomie, l'appendice, certains d'entre vous n'en ont même plus. Hein, vous avez souffert d'une appendicite, donc on l'a retiré, on retire ça assez facilement. En général, ça ne pose pas trop de problèmes. Ici, en littérature, c'est une annexe, c'est quelque chose en plus. Un autre chapitre, puisque chapitre 20, à la fin, on voit bien que Jean a terminé son texte, son livre, et voilà, il ajoute quelque chose. Alors, il y a beaucoup de discussions parmi les théologiens pour savoir si c'est lui qui l'a écrit, si ce sont d'autres disciples qui l'ont écrit. Peu importe, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, ce n'est pas le plus important. Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, cet appendice n'est pas infecté, il ne faut pas le retirer. Il faut le garder. Il est très important. Il est même capital, en fait, puisque, dans un sens, on peut dire que quand Jean termine son évangile en écrivant, au chapitre 20, verset 30, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Là, en fait, il montre que tout ce qu'il avait écrit dans son évangile, c'était pour amener les lecteurs de ce texte à découvrir ce que lui et Jean avaient découvert en Jésus, c'est-à-dire qu'il est le Messie, le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, ils reçoivent la vie éternelle. Et une fois qu'on a reçu la vie éternelle, eh bien, on a reçu quelque chose qui est appelé à croître, à se développer, à s'épanouir. Et c'est ça l'intérêt du chapitre 21, en fait. C'est de nous montrer comment Dieu va amener un de ses disciples à grandir, en fait, à se développer spirituellement. Et on sait, bien évidemment, quand on connaît un peu les détails de ce qui s'est passé au moment de l'arrestation de Jésus, de l'attitude de Pierre, on sait comment Pierre s'est très mal comporté, contrairement à ce que lui avait annoncé, à ce qu'il avait dit, et effectivement, il avait besoin d'une opération. Hein, il avait besoin d'une intervention chirurgicale au plus profond de lui-même, et il avait besoin d'un changement, une véritable transformation, quelque chose de durable. Vous vous souvenez, nous avons parlé il y a quelque temps de tennis, de la balle de tennis. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? Alors, je n'ai pas apporté la canette, parce qu'il y avait une canette de... Hein, de... Oh, je ne fais pas de pub, c'est vous qui faites de la pub. Une canette, un soda, d'accord? Ah, du coca, si vous voulez. Hein. Ou du Pepsi, je ne sais pas. Et la canette, elle était écrasée, vous vous souvenez? La balle... Avec un peu de force, je peux la déformer, mais si je lâche mes doigts, elle revient à son état initial. La canette, une fois qu'elle est écrasée, c'est quand même assez difficile de la remettre dans son état initial. Ça, c'est l'illustration que j'avais choisie pour parler du changement. Il y a des changements dans notre vie qui sont spectaculaires peut-être, mais ils ne sont pas durables. C'est comme la balle de tennis. Ça dure un moment, mais ça ne va pas très très loin. On vient dans une réunion, on reçoit... Les jours qui suivent sont formidables, et puis 15 jours, un mois après, bouf, on est retombé dans les mêmes comportements, les mêmes attitudes. L'intérêt, c'est d'aller vers un changement qui soit durable, à l'image de la canette. Lorsqu'elle est déformée, elle est déformée totalement et pour longtemps. C'est ce que Jésus va faire avec Pierre. C'est ce que Jésus veut faire avec Pierre. Pierre, au moment de ce petit déjeuner, là, il est très abîmé. Il est en petits morceaux, on peut dire. Il est très mal, le moral est au plus bas. Suite à son reniement, vous connaissez bien sûr ce qu'il avait dit à ce moment-là quand Jésus lui a annoncé qu'il allait le renier. Pierre a dit « Oh Seigneur, merci de me prévenir, je me sens si faible. Est-ce que tu peux venir à mon secours? Est-ce que tu peux venir m'aider ?» Ça ne surprend personne, ça. C'est vraiment ce qu'il a dit, là? Ah, vous savez, c'est ce qu'il aurait dû dire. Il aurait dû prendre très au sérieux ce que Jésus lui a dit. Mais ce n'est pas ce qu'il va dire. Il va dire le contraire. Il va dire « Écoute, Seigneur... » Comme s'il était mécontent de ce que Jésus doutait de sa fidélité, vous voyez. Alors, écoute, Seigneur, ça peut arriver aux autres. Si les autres te laissent tomber, moi, c'est impossible. Je ne peux pas te laisser tomber. En fait, tu devrais savoir que moi, je préfère mourir que de te laisser tomber. Voilà, c'est quand même une parole qui est claire. Il le pensait vraiment. Il le croyait. Puis la suite, vous la connaissez, hein. Jésus va être arrêté, il va être envoyé chez le grand prêtre. Pierre va suivre ce groupe, il va se retrouver dans la cour de la maison du grand prêtre, il va y avoir un feu. Et puis là, une des servantes du prêtre va le reconnaître. Elle va dire, mais toi, tu étais avec Jésus. Ah non, 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 non. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? Le coq va chanter, une première fois. Enfin, je ne sais pas. Jésus lui avait dit, tu sais, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Enfin, je ne sais pas, à ce moment-là, vous voyez un peu, c'est comme voilà, un rappel. Mais ça n'a pas suffi, puisque à deux autres reprises, ils vont insister, la servante, et puis après les gens qui étaient, ceux qui étaient autour du feu, vont insister pour dire qu'il était avec Jésus, qu'il connaissait Jésus, et lui va encore insister pour dire qu'il ne le connaissait pas. Il va même prêter serment, il va jurer qu'il ne le connaissait pas. Cet homme se croyait si fort, si grand. Il va finir comme un lâche, un infidèle, un traître. En fait, comme Judas. Judas finit comme ça. Du coup, il n'était pas meilleur que Judas. Il avait vraiment besoin d'aide, hein. Et on voit Jésus intervenir ici, à ce moment-là, comme un médecin, en fait. C'est lui qui va dire, hein, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Il va comparer les êtres humains à des malades spirituels, moralement, qui ont besoin d'une guérison. Et Jésus va souvent guérir les corps malades, mais il va surtout s'intéresser aux âmes malades, en mauvais état. Et Jésus va faire le travail d'un chirurgien, là. Un très bon chirurgien. Et on va assister à l'opération ce matin. Ça vous fait peur? Vous êtes prêts? Vous voulez d'abord une anesthésie, j'imagine, hein? D'accord? On va passer, vous donner une anesthésie un peu, puis là... Donc, l'opération va se passer de la façon suivante. Il y aura trois étapes. Il va y avoir l'étape de l'auto-responsabilisation de Pierre, ça va être ça d'abord, pour Pierre, ça va être l'introspection de Pierre pour la guérison de Pierre. Si on reprend la métaphore médicale, ça donne cela en trois étapes, ça va donner, alors là vous avez le bloc, hein. Tu peux remettre l'image, là ça va rappeler des souvenirs à certains, pour certains c'est presque leur maison, hein, ils travaillent là, Là, c'est en fait un bloc spécial cardiologie. J'ai mis ça comme ça, par hasard. Hein. Et ensuite, donc le plan, les trois étapes dans l'opération. Donc, l'incision des tissus. Là, on coupe. Vous voyez? Ensuite, la localisation de la tumeur. Là, on imagine que c'est pour enlever une tumeur. Et puis... Ensuite, l'exérèse tumorale. Voilà, C'est du jargon médical qui est utilisé dans ce genre de situation. Donc c'est pour ôter, retirer la tumeur une fois qu'elle a été... Donc ça va être l'opération de Pierre que Jésus va faire. La première étape, c'est celle que j'ai appelée l'autoresponsabilisation de Pierre. C'est Jésus qui va préparer cette mise en scène. Vous avez vu la mise en scène ? Jésus avait d'abord donné rendez-vous à ses disciples à cet endroit. Il leur avait dit, quand ils avaient vu à Jérusalem, allez en Galilée, on va se retrouver là. Donc Jésus avait planifié tout cela. Tout ce que vous voyez ici, ça a été voulu, décidé par Jésus lui-même. Donc le décor, la mise en scène, tout cela, c'est Jésus qui l'a voulu. C'est lui qui voulait faire cette opération. Donc la plage, les poissons, le feu, tout cela, Jésus l'a voulu. La conversation, les trois questions, les trois mêmes questions répétées, m'aimes-tu plus que ceci ? Tout cela, c'est Jésus qui l'a voulu. Et cette scène-là, bien évidemment, elle était voulue par Jésus pour rappeler à Pierre un mauvais souvenir. Ça, c'est sûr. Lui qui avait renié Jésus trois fois, il ne pouvait pas se tromper, là. Et c'était pour l'amener à admettre, à reconnaître, bien sûr, le mal qu'il avait commis, sans blâmer personne, sans porter la responsabilité sur d'autres, mais prendre totalement la responsabilité sur lui-même. Le chirurgien, lui, quand il veut enlever une tumeur, il coupe d'abord les tissus. Il a un bistouri pour ça. Et cette coupure qui fait mal, c'est un rappel douloureux pour Pierre, de sa culpabilité, de la honte. La honte est profonde chez Pierre, et on est, souvenez-vous, dans une culture orientale fondée sur l'honneur. Donc la pire chose qui puisse arriver à un homme dans cette culture, c'est justement d'être humilié devant les autres, de s'être trompé, d'être mis en échec, d'avoir ce sentiment de honte. Donc Jésus n'a pas besoin d'insister trop, parce que Pierre est déjà chargé à ce niveau-là. Il en a donc une profonde douleur avec tous les symptômes, la culpabilité, la honte, l'humiliation. Ça, c'est l'étape indispensable. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là, bien sûr. Parfois, c'est une étape difficile à atteindre. Pour Pierre, ça n'a pas été difficile. Pierre, il savait. Parfois, nous ne sommes pas trop conscients du mal qu'on a fait. Il faut d'abord que Dieu nous rende conscients de ces choses-là, par les dégâts que ça a pu faire autour de nous, par les résultats, les réactions des autres, etc. C'est quelque chose de très douloureux à ce moment-là. Bien évidemment, il ne faut jamais s'arrêter là. Ça commence là, c'est comme coupé dans les tissus. C'est indispensable. Le chirurgien, il ne peut pas enlever une tumeur d'abord sans couper. Il y a une étape douloureuse. C'est cette première étape. Je ne veux pas trop insister. On va plutôt insister sur la deuxième et la troisième étape. La deuxième étape, ça va être l'étape de l'introspection pour Pierre. C'est-à-dire le regard intérieur, ce regard sur soi-même. Pour le chirurgien, c'est de localiser la tumeur. Une fois qu'il a ouvert, il faut qu'il voit exactement où se trouve le mal. Donc il est obligé d'ouvrir pour atteindre. Mais il faut qu'il aille plus loin après. Il ne s'arrête pas là, bien sûr. Et c'est ce que Jésus va faire, et c'est ce que Jésus va faire dans ce dialogue, dans cette conversation qu'il va avoir avec lui. Vous remarquez ce que Jésus va dire, mais remarquez surtout ce que Jésus ne va pas dire. Jésus ne va pas vers Pierre pour lui dire « Écoute, Pierre, t'es quand même un grand menteur. T'es un traître. T'es un lâche. » Il ne fait pas ce que nous faisons souvent avec nous-mêmes et avec les autres dans ces moments-là. Prenez l'exemple des parents avec les petits-enfants, avec leurs enfants, lorsqu'ils font une bêtise, quelque chose qui n'est pas très bien, et qui s'est mis en colère, ou qu'il a menti, etc. La plupart des parents, lorsqu'ils sont devant un enfant qui a fait ce genre de choses, il va lui dire « Tu sais, c'est très très mal. Ce que tu as fait est très très mal. Mentir, c'est très très mauvais. C'est très très mal. Tu vois les dégâts que ça peut faire. » Et puis, en général, il termine, le parent, en disant « Tu ne feras plus ça, mon petit chéri. Hein. C'est fini. Tu vois un peu les dégâts que ça fait. T'as vu ? Ce que tu as fait, c'est pas beau du tout. » Puis l'enfant, dans ses sanglots, qui dit « Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, jamais, jamais plus. Promis, promis, promis. » Jusqu'à la prochaine fois. On sait tous, là. En fait, on n'a rien réparé du tout. C'est superficiel. C'est pas vraiment en profondeur. C'est pas ce que Jésus fait avec Pierre, justement. Il dit pas à Pierre, tu sais, Pierre, tu as été un mauvais disciple. Tu as été un grand lâche dans cette affaire. Je veux pas que tu recommences. Il faut pas que tu recommences, Pierre, parce que Pierre, c'est pas bien ce que tu as fait. D'accord, Pierre ? Oui, 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 Jésus. Et ça serait jusqu'à la prochaine fois. Jésus va à la racine du mal. Il sait ce qui a provoqué la lâcheté, le mensonge, la malhonnêteté, la traîtrise chez Pierre. Jésus sait que le mal, c'est beaucoup plus qu'un comportement, qu'une attitude, qu'une parole ou qu'une action. Souvent, on limite le mal à cela, en fait. Et on s'en prend à cela, on s'en prend aux symptômes du mal, pour garder la métaphore médicale. Mais pas la motivation, pas au désir, ce qui a provoqué tout cela. C'est la raison pour laquelle Jésus va poser cette question à Pierre, qui est capitale, et lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Pas « m'aimes-tu seulement », mais « m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors les théologiens, ils ont beaucoup discuté pour savoir ceci, c'était quoi, c'était qui. Certains pensent que Jésus montrait les filets pour dire à Pierre « tu voilà, toi, ce qui domine le plus, qui est au centre de ta vie, ce sont les filets. C'est la pêche, c'est le travail. » Parce que c'est vrai que le texte, la grammaire, ici, ne nous aide pas, en fait. Ça pourrait aussi bien être s'attribuer aux filets qu'aux autres disciples. Enfin, quand on regarde le contexte, je pense que ça a plus de valeur et d'intérêt de penser que Jésus est en train de dire à Pierre « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Parce que c'est exactement ce que Pierre avait dit à Jésus lorsque Jésus lui a annoncé qu'il allait le renier 3 fois. C'est exactement ce qu'il avait fait. Pierre va dire à Jésus « Mais non, Seigneur, alors peut-être eux, parce qu'ils ne t'aiment pas tant que ça, mais moi, je t'aime tellement plus qu'eux. » Vous voyez ? La lâcheté de Pierre, ce qui va se manifester, est partie de cet orgueil de Pierre, en fait. Le mal le plus profond chez Pierre à ce moment-là, ce n'était pas la lâcheté, pas le manque de courage. C'était l'orgueil. C'est qu'il se mettait au-dessus des autres. Pierre était dans un esprit de compétition pour être le meilleur, pour être plus fort, plus grand que les autres. Il avait fondé son identité là-dessus, en fait. Son identité, elle était construite sur le fait que lui allait être au-dessus des autres. Et croyez-moi, l'identité que le monde nous pousse à avoir, c'est souvent celle-ci. D'où cet esprit de compétition. Ah, ça peut être sympa dans le sport, bien sûr. Mais ça développe un état d'esprit. Ça développe une identité, ça aussi. Et c'est dangereux, parce qu'on le retrouve après à tous les niveaux, en fait. C'est la raison pour laquelle Jésus va le ramener au cœur du problème, du mal. En fait, derrière tout cela, il y a un Pierre qui veut se prendre pour Dieu. Il veut être au centre, Pierre. Il veut être au-dessus. C'est celui qui est sur le trône de sa vie, c'est Pierre d'abord. Ce n'est pas Dieu. Il faut se souvenir de cela, c'est que chaque faute, chaque péché, c'est renier Christ, en fait. C'est une manière de dire, je veux être au centre de ma vie, je veux être sur le trône de ma vie. Alors Dieu, oui, parce qu'on est religieux. Alors quand on est religieux, Dieu, on le veut, mais à la périphérie, vous voyez, sur les bas-côtés, au cas où on a besoin de lui. Ah, il faut qu'il soit là quand même. Mais celui qui est au milieu, celui qui est au centre, c'est nous-mêmes. Là, c'était Pierre. Il y a une femme, une chrétienne, qui, dans son témoignage, raconte que dans le cadre de son travail, un jour, elle a été victime d'une grave injustice de la part de son patron. Ça avait été très douloureux pour elle, très, très humiliant. Et après cette injustice, elle raconte comment elle était incapable de pardonner à ce patron. Elle était pourtant chrétienne. Elle avait même été voir son pasteur et son pasteur lui avait dit tu connais l'Évangile. Hein. Maintenant que tu es chrétienne, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Et elle raconte comment elle était incapable de pardonner. Elle ne pouvait pas pardonner. Elle avait tout essayé. Elle se disait, je suis chrétienne, mais elle se sentait incapable de pardonner. Et ça a duré longtemps, jusqu'au jour où elle a découvert quelque chose. Elle a découvert que sa vie professionnelle, son avancement professionnel, sa carrière professionnelle avait la première place dans sa vie. C'était son Dieu, en fait. Tout en disant qu'elle était chrétienne, en fait, ce qu'il y avait au centre pour elle, pour sa réussite et son identité, c'était la réussite professionnelle. Et bien évidemment, l'attitude du patron à ce moment-là avait fait que ça avait mis un coup à son évolution professionnelle. Parce que là, dans cette entreprise-là, son avenir était compromis. Et c'est ce qui faisait qu'elle avait vécu cette injustice comme quelque chose encore de plus injuste, que la douleur était encore plus forte. Alors quand elle a réalisé cela, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a dit, écoute Seigneur, oui, je reconnais que ce n'est pas toi qui as la première place dans ma vie. En fait, c'est mon travail, c'est ma carrière, c'est ma réussite professionnelle. Je veux te mettre à la première place. Le jour où elle a fait ça, elle a pu pardonner à son patron. Le jour où elle a fait ça, elle n'a pas trouvé de difficulté particulière pour pardonner. Elle a réalisé que ce qui faisait obstacle dans cet acte de pardon pour celui qui avait commis cette offense à son égard, cette injustice, c'était quelque chose de plus profond encore. Vous voyez, c'est comme les trains. Un train en cache souvent un autre. C'est pareil avec le mal. C'est pareil avec le péché. On parle souvent des symptômes, on s'arrête souvent sur les symptômes. Il y a la colère, il y a la haine, la jalousie, la méchanceté, la médisance, la calomnie, un esprit critique. Tout cela, ce sont des symptômes, ça cache quelque chose de plus profond, en fait. Si vous êtes avec ce genre de symptômes, si vous avez ce genre de symptômes, vous essayez de lutter, certainement, mais sans beaucoup de succès, dites-vous qu'il y a quelque chose de plus profond encore. Vous savez, quand Jésus va parler de l'inquiétude dans le sermon sur la montagne, vous vous souvenez, quand il va dire à ses disciples, « Ne vous inquiétez de rien. » Il peut y avoir des vraies raisons tout à fait objectives à l'inquiétude. Hein. Pour des pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, c'est un sujet d'inquiétude, savoir s'ils vont manger le lendemain. Si des parents ont des enfants qui sont en danger, par exemple, une situation critique, voilà, c'est une raison objective d'être inquiet pour ses enfants quand on est parent. Mais quand Jésus va parler de l'inquiétude, il sait tout cela, bien sûr. Mais avant de parler de l'inquiétude, il va dire, dans ce paragraphe où il est question de l'inquiétude, juste avant, Jésus va dire, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Soit il servira l'un ou haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et C'est quand même bizarre, ça. Pourquoi est-ce que Jésus met ça juste avant de parler de l'inquiétude? Parce que quand Jésus va parler de l'inquiétude, il va dire à ses disciples, vous savez, quelle sera Pour vous, le moyen d'être délivré de l'inquiétude, c'est de réaliser que vous avez un Père céleste dans le ciel. Et il va parler de ce Père céleste et ce qu'il fait avec les oiseaux du ciel, avec les lys des champs. Il dit, mais vous, vous avez votre Père céleste. Est-ce qu'il est votre maître? Est-ce qu'il a toute sa place dans votre vie? S'il a toute sa place dans votre vie, vous allez être libéré de l'inquiétude. S'il n'a pas toute sa place, s'il y a quelque chose d'autre à sa place, vous allez être inquiet parce que vous allez essayer de faire les choses par vous-même. Et vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous voyez que quand Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Jésus va au fond du problème. La lâcheté, quand Pierre va renier Jésus, c'était un symptôme de quelque chose de plus profond. Jésus, là, met le doigt sur la tumeur. Il a trouvé la tumeur, en fait. Maintenant, il peut la retirer, l'ôter. Et ça, c'est la troisième étape. C'est l'exérèse tumorale. Et là, bien sûr, il vaut mieux être endormi, hein. La troisième fois, lorsque Jésus va poser cette question à Pierre, « M'aimes-tu ?» Vous savez ce que ça va provoquer chez Pierre? Vous avez vu? La tristesse. La tristesse. Quand Jésus va lui dire pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Il nous est dit que Pierre fut attristé. La tristesse. Tiens, c'est un sentiment intéressant, ça. La tristesse, dans un tel moment. Qu'est-ce qui a produit la tristesse, en fait? Qu'est-ce que Pierre était en train de vivre, là? C'est ce que la Bible appelle la repentance. En fait, les trois étapes, ce sont les trois étapes de la repentance. Et la repentance, selon la Bible, elle produit toujours de la tristesse. La repentance, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, elle produit de la tristesse. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est ce que la Bible nous dit. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit authentique ou qu'elle soit factice, elle produit toujours de la tristesse. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Il avait écrit dans une première lettre à ces chrétiens de Corinthe, il avait dénoncé une mauvaise attitude qu'ils avaient eue dans cette église. Ils s'étaient rendus coupables de quelque chose de grave et Paul avait été là, franc avec eux, direct avec eux, et puis il s'était vraiment repenti. Et donc, dans cette deuxième lettre, Paul va revenir sur ce qui s'est passé, sur leur attitude. Et il va leur dire, si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la repentance, qu'elle soit vraie ou pas, authentique ou pas, elle produira toujours la tristesse, mais pas la même tristesse. C'est ça la différence. Il y a la repentance qui produit des regrets, une tristesse, mais qui n'aboutit à rien. C'est ce que Paul appelle la mort. Et puis une repentance qui produit des regrets aussi, une tristesse, mais qui se termine par la vie ou par la liberté. Il y a la tristesse, en fait, la fausse repentance, c'est la tristesse par rapport à soi. Déçu parce qu'on est en situation d'échec, parce que notre image, notre réputation est abîmée, en fait. Cette repentance-là, elle est sans résultat durable. C'est ce que Paul appelle la mort. Elle peut produire un changement, mais ça sera toujours un changement provisoire. Et puis, il y a la tristesse qui n'est plus par rapport à soi, mais qui est par rapport à Christ. Parce que je vois ce que le mal que j'ai fait a coûté à Christ. Comment il a abîmé Christ, non pas moi, mais Christ. Et là, ça produit une tristesse qui va justement produire ou donner un véritable changement, et un changement durable. Vous voyez, d'une manière générale, la religion, elle invite les gens à regarder à eux-mêmes, en fait. Ce qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait. Et ce que le mal leur a coûté aussi, en termes d'image, de réputation, de tristesse, de punition, d'apitoiement sur soi-même. La religion, elle invite les gens à apporter leur faute au mont Sinaï pour avoir et attendre un jugement, une punition. Alors que l'Évangile nous invite à apporter notre faute au mont Golgotha, c'est-à-dire à Christ. Et le disciple, là, devant Golgotha, il se dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire cela à celui qui m'a tant aimé? Comment est-ce que j'ai pu le blesser de cette manière-là? C'est ce que Pierre a ressenti devant Jésus à ce moment-là. Ce n'était pas tant par rapport à lui qu'il souffrait, c'est par rapport à ce qu'il avait infligé à Christ, à la souffrance, à la douleur qu'il avait produit chez Christ. La religion nous invite à la repentance par peur d'être rejeté, avec la crainte d'être rejeté. Alors que l'Évangile nous appelle à la repentance en sachant que nous allons être acceptés. C'est ce qui produit un changement profond, en fait, réel, durable. Ne vous trompez pas. Je crains que trop souvent les chrétiens se trompent. Au lieu d'aller au mont Golgotha, ils vont au mont Sinaï. Au lieu de regarder leurs fautes par rapport à Christ, ils la regardent par rapport à eux-mêmes, à ce qu'ils auraient dû faire, à l'image qui est atteinte, leur réputation qui est abîmée. Ça produit la mort, en fait. Ça ne change personne. C'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Et on sait que ça a marché. Vous vous souvenez de ce moment qui nous est raconté ici dans Jean 21, avec la pêche miraculeuse. Vous savez qu'il y a eu un autre moment semblable dans le ministère de Jésus, même au début du ministère de Jésus, avec une première pêche miraculeuse. Elle nous est racontée dans Luc 5. Et quand on regarde Luc 5 et Jean 21, ces deux récits, on voit beaucoup de points communs entre les deux. En fait, c'est la même scène. Dans les deux, Pierre va aller pêcher toute la nuit sans rien prendre. Quand il revient le matin, Jésus est sur la plage. Et dans les deux récits, Jésus va dire à Pierre, « Jette le filet !» Et dans les deux récits, lorsque Pierre va remonter les deux filets, ils seront pleins de poissons. Mais là, il y a une grosse différence. Une très grosse différence. Dans le premier récit, lorsque Pierre va être face à la puissance de Jésus dans ce miracle, vous savez ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Jésus, il va s'agenouiller et il va dire à Jésus, « Mais Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Vous voyez un peu? Alors que dans le deuxième récit, qu'est-ce que Pierre va faire? Une fois qu'il va voir ce miracle, il va pas dire, allez, on prend les rames, on va dans la direction opposée. Non, non, lui-même, il va plonger dans l'eau. Il va courir, si j'ose dire, il va nager le plus vite possible pour aller vers Jésus. Vers Jésus. Vous voyez un peu la différence ? Dans un premier récit, le même miracle, Pierre dit à Jésus, non, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas rester ensemble. Pierre était dans la culpabilité, dans la honte. Son image était ternie. Il voyait sa faiblesse. Et là, à ce moment-là, il ne voyait pas Jésus comme sauveur. Il voyait Jésus simplement comme un maître, comme un indicateur, celui qui allait montrer à Pierre ce qu'il devait faire pour se sauver lui-même. Donc, c'est une manière pour Pierre de dire à Jésus, « Écoute, Seigneur, je me retire, ou tu t'en vas, parce que j'ai du travail à faire. Il va falloir que je me purifie un peu. Et quand je serai pur, alors on pourra être ensemble. » Vous voyez ? C'est ça qu'il veut faire. Alors que dans le deuxième récit, dans Jean 21, il a ce profond sentiment de culpabilité, de honte, bien sûr. Mais là, il court vers Jésus. Et s'il court vers Jésus, c'est parce que Jésus, c'est plus seulement un maître pour lui, c'est un sauveur. C'est Jésus qui va pouvoir le sauver. C'est Jésus qui va pouvoir le purifier. Bien sûr qu'il sent sa souillure, il sait qu'il a honte de lui, il sait ce qu'il a fait. Mais là, il voit Jésus vraiment dans ce qu'il est, c'est-à-dire le sauveur. Et là, on peut dire l'opération spirituelle, elle est réussie. La guérison, elle peut être totale, véritable, en profondeur, durable. Et nous aussi, c'est ce qu'on a besoin. Ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a, vous savez. On peut avoir le réflexe de Pierre dans Luc 5. Lorsqu'on est face à nos faiblesses, à nos échecs, dire « Oh là là, j'ai du travail à faire, il va falloir que je prie un peu plus, il va falloir que je lise ma Bible un peu plus, il faut que je fasse un peu plus de choses. » Vous voyez, parce qu'on se dit « On va s'élever ainsi et puis se rapprocher de Dieu. » Non. Ça veut dire qu'on ne voit pas Jésus vraiment comme sauveur, on le voit plus comme un maître, un prophète, quelqu'un qui est là pour nous dire ce que nous devons faire. Et la guérison, elle ne peut pas être totale. C'est pour ça que c'est pas... Souvent, ces améliorations ne durent pas, parce que ça n'a pas été suffisamment en profondeur. Vous voyez, pour Pierre, je conclurai avec deux preuves de cette guérison. Déjà, on en a un premier signe, lorsqu'il court vers Jésus. Là, déjà, on sent que Pierre n'est plus le même. Là, il sait que Jésus est différent que ce qu'il savait de lui quelque temps auparavant, dans Luc 5 notamment. Mais là, il court, donc, il court vers Jésus. Jésus répare, change et transforme Pierre. Deux preuves de cela, de ce changement durable. La première, c'est le fait d'avoir ce récit dans l'évangile de Marc. On va dire, pourquoi Marc ? Pourquoi Marc ? Parce que Marc, en fait, tout ce que Marc a raconté dans son évangile, il l'a entendu de la bouche de Pierre. Marc était comme le secrétaire de Pierre. C'est lui qui a pris les notes. Marc n'était pas là, il n'a pas vu tout cela. Et on sait dans le livre des Actes que Marc était avec Pierre. Donc ce que Marc raconte, et quand Marc raconte ce qui s'est passé au moment du reniement, il raconte les moindres détails. Pierre, il pouvait parler de cet échec. Vous savez, quand vous avez bien digéré quelque chose, quand vous avez tourné la page, quand vous êtes passé à autre chose, vous pouvez parler. Tant que c'est là, tant que c'est présent, tant que c'est à vif, vous ne pouvez pas en parler. C'est difficile d'en parler. Mais la meilleure preuve que Pierre était vraiment délivré, qu'il était guéri, c'est qu'il pouvait en parler. Et nous, on a tous connu ça les uns et les autres. Lorsqu'on a pu commettre des échecs, au départ, on ne pouvait pas en parler. Puis, quelque temps après, lorsqu'on a vraiment dépassé, lorsqu'on a oublié, on peut en parler. Et c'est ce que Pierre va faire avec Marc. Parce que Pierre savait que c'était important pour les autres. Et c'est important que les autres le sachent, ce qu'il avait fait, parce que c'est le problème de tous, en fait. Et Pierre indiquait par là qu'il avait vraiment reçu la grâce, le pardon de Dieu, Il pouvait se souvenir de cet échec, bien évidemment, mais sans douleur particulière, avec un grand soulagement, le soulagement de la grâce. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le soulagement de la grâce. Alors il a pu en parler à Marc et Marc a pu l'écrire. Et on sait que Marc a été le premier évangile qui a été écrit et qui a aussi inspiré et un peu aidé les autres. La deuxième preuve, c'est bien évidemment le ministère de Pierre. Quand on lit le livre des Actes des apôtres, on s'aperçoit que Pierre avait eu d'autres occasions de renier Jésus. Il a été en prison assez vite. Il aurait pu mourir comme Hérode avait tué Jacques. Mais face à ces situations identiques, Pierre est resté fidèle. Pierre a tenu ferme. Et on sait que comme Jésus va lui annoncer ce jour-là, là, sur le bord du lac de Tibériade, que de quelle manière il allait mourir, que Pierre a été fidèle jusqu'au bout et qu'il a donné sa vie pour son maître, pour Jésus, sans le renier. Vous voyez, la preuve du changement. La preuve de cette guérison totale, c'est que ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, ce n'est pas parce qu'il était plus fort que les autres. C'est parce qu'il avait été sur cette table d'opération et qu'il avait laissé Jésus ouvrir, chercher la tumeur et ôter la tumeur. C'est ce qu'il veut faire là. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une situation d'échec. Et vous êtes comme Pierre avec le moral à zéro. Et voilà, vous avez honte de vous. Vous dites, mais pourquoi j'ai fait cela? Et pourquoi j'ai parlé comme ça? Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Enfin, vous êtes là avec de forts regrets ce matin. Et vous dites, mais je ne veux plus recommencer. Et malheureusement, si vous ne faites pas les choses comme Jésus les a faites avec Pierre, ou comme Pierre a laissé Jésus le faire avec lui, ben, ça va peut-être aller mieux pendant quelques jours, mais ça va repartir et recommencer. Ce qui est important, c'est de laisser Jésus enlever la tumeur, le mal au plus profond, et de manière générale, le mal au plus profond. Vous savez ce que c'est? C'est l'orgueil. N'allez pas chercher plus loin. Cherchez de ce côté-là, vous êtes sûr de trouver quelque chose. Ça se manifeste de manière différente, certes, dans des situations différentes, mais c'est là et c'est toujours là. C'est de laisser la place qui revient à Dieu seul dans notre vie. Notre problème, c'est qu'on prend cette place. On veut garder cette place. On fait parfois des allers-retours. Hein. Pendant un temps, c'est lui, c'est Dieu qui est là, c'est Jésus qui est là, puis très vite, hop, on reprend la place. Quand ça touche des choses qui sont très sensibles, des choses qu'on aime particulièrement et alors, il y a un moment donné, il faut inciser, il faut chercher, il faut retirer. Vous êtes prêts pour ça? Il y en a trois, quatre. Ça fait mal, hein, vous savez, mais ça fait du bien après. Demandez à Pierre. Et Jésus sait le faire. Jésus sait le faire. Vous voyez comment Jésus l'a fait avec... Ce n'est pas Daniel Leroux qui peut faire ça, vous savez. Ça serait très dur, ça serait très brutal et ça vous laisserait des cicatrices. C'est Jésus qui peut le faire. C'est lui qui va le faire. Alors si vous êtes là, d'une certaine manière, je crois qu'on a tous besoin de cela, mais peut-être certains sont dans un état d'urgence absolue. Hein, parce que vous dites, si Dieu n'intervient pas là, c'est fini. Donc il faut que Dieu intervienne. Et si vous êtes dans cette situation-là, je crois qu'il peut se passer quelque chose ce matin. Dieu peut faire cela, comme il l'a fait avec Pierre. Ah, vous n'y attendez pas, hein, en venant ici ce matin, en prenant votre petit déjeuner oriental. Mais c'est ce que Jésus va faire. On va prier ensemble. Seigneur. Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas meilleur que Pierre. Nous nous retrouvons facilement dans ses comportements, dans ses attitudes et ce que tu as fait pour lui, Seigneur, nous réalisons que tu as besoin de le faire pour nous, Seigneur. Seigneur, quand tu l'as déjà fait, Seigneur, et pour ceux pour qui tu l'as déjà fait, nous pouvons que te bénir comme Pierre t'a béni, Seigneur. De venir à nous de cette manière-là pour retirer le mal en profondeur. Seigneur, tu es là le vrai sauveur, le vrai réparateur, le vrai restaurateur, Seigneur. Celui qui remet en état, Seigneur, ce qui avait été, Seigneur, cassé, brisé par le mal, Seigneur. Te prions de continuer cette œuvre de restauration, cette œuvre de réparation. Et c'est ce que tu veux faire pour certains en particulier ce matin. Tu vois ceux qui sont venus dans cet esprit-là ce matin et qui attendent de toi quelque chose. Alors je te prie pour eux. Si vous êtes concernés ce matin, je vous invite à vous lever à votre place. Montrez que vous voulez vraiment que Dieu vous visite, que Dieu vous libère à ce niveau-là, que vous puissiez vivre quelque chose ce matin qui restera, quelque chose qui ressemble à ce que Pierre a vécu ce jour-là. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont debout ce matin et qui sont là pour te dire, Seigneur, fais cette œuvre, fais cette opération dans mon cœur en profondeur, Seigneur. Ça a trop souvent été fait, Seigneur, de manière superficielle, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas connaître une tristesse, Seigneur, qui mène à la mort, Seigneur, une tristesse par rapport à ce que j'ai fait, mais une tristesse par rapport à toi, Seigneur. Une tristesse, Seigneur, qui donne la vie, qui produit la vie, Seigneur, qui produit un changement durable, Seigneur. Et Seigneur, tu sais, Seigneur, que notre problème de fond, Seigneur, c'est de prendre ta place, Seigneur, c'est de s'asseoir, de nous asseoir sur ce trône qui est le tien, Seigneur. Alors te prions maintenant, Seigneur, pour que tu prennes la place qui te revient, Seigneur, sur le trône de notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te mettre à cette place-là, Seigneur. Nous voulons que tu règnes dans notre vie, Seigneur, que ce ne soit pas simplement des mots, Seigneur, mais que ce soit notre vie entière. Seigneur, règne dans notre vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui console maintenant, c'est toi qui pardonne, c'est toi, Seigneur, qui répare, Seigneur, comme tu l'as fait pour Pierre. Oh, Jésus, merci pour cela, Seigneur. Merci pour cette guérison. Merci pour cette délivrance. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.